Bonjour à tous, bienvenue sur Graphite 94.9. Vous écoutez La Voix est libre, une émission de l'association Picassoft. Alors pour rappel, Picassoft c'est une association principalement étudiante basée à Compiègne qui s'est donnée pour mission de sensibiliser et de former les citoyens aux enjeux du numérique et qui héberge des services web respectueux de la vie privée. Mais vous pouvez retrouver toutes ces informations sur picassoft.net. Aujourd'hui, on va parler de monnaie libre et pour ça, je suis accompagné de Romain, Stéphane et Rémi. Salut à vous.
Bonjour.
Salut.
Et alors la monnaie libre, le nerf de la guerre, la semaine dernière on parlait de culture libre, combien de choses allons-nous libérer? On le verra dans cette série donc, de 4 émissions a priori si on arrive à tenir la distance sur la monnaie libre. Alors pour commencer je vais me permettre un petit laïus, si vous me permettez l'expression, sur la monnaie libre parce que ça n'aura sans doute pas échappé à certains d'entre vous, mais le système monétaire et financier actuel en plus d'être très complexe et sans doute impossible à saisir dans sa globalité et générateur de, on pourra dire, de méfiance et certaines mauvaises langues parlent même d'inégalité. Donc il faut comprendre un tout petit peu comment fonctionne ce système financier pour comprendre les origines de la monnaie libre. On observe bien que la répartition de la monnaie est très déséquilibrée, que l'écart entre très riches et très pauvres est assez grand. Et répondre exhaustivement à cette question est évidemment impossible, mais on peut tout de même se focaliser sur un point en particulier. Et c'est de savoir comment fonctionne la création monétaire actuelle, d'où vient l'argent qui circule. Eh bien aujourd'hui, moins de 10% de la monnaie en circulation est sous forme de billets et de pièces. Ces pièces sont émis par les banques centrales. Et plus de 90% de la monnaie est dite scripturale, c'est-à-dire que c'est la somme qui est inscrite sur votre compte en banque, ou sur le compte en banque de l'État français, ou des autres personnes, mais cette somme ne correspond pas du tout à une réserve d'or ou à une montagne de billets dans le monde réel. Du coup, on pourrait se demander d'où vient cette somme. Eh bien, elle est créée, comme l'essentiel de la monnaie aujourd'hui, par la dette. Et c'est pour cela que par la suite, on parlera de l'euro ou du dollar comme d'une monnaie-dette. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, en gros, les banques commerciales ont l'autorisation, donc légale, de créer de l'argent, ou pour dire autrement, de prêter de l'argent qu'elles n'ont pas. Donc lorsqu'une banque prête de l'argent à un État, elle ouvre en quelque sorte le robinet, la baignoire se remplit, et au fur et à mesure que l'État ou le particulier va rembourser cet argent, la baignoire se vide petit à petit jusqu'à l'être complètement, et ainsi on revient à l'équilibre. Or, dans ce qu'on vient de dire, on oublie que les banques demandent des intérêts sur cet argent, et c'est ce problème qui est à l'origine de ce qu'on appelle le paradoxe des intérêts manquants. D'où vient l'argent qui pourrait servir à rembourser ses intérêts? Eh bien, il faudra qu'un autre crédit soit contracté afin de pouvoir rembourser les intérêts du premier, etc. Et on s'enferme un petit peu dans cette espèce de spirale où, en France, par exemple, chaque année, on rembourse seulement une partie des intérêts de la dette publique. Ces intérêts s'élevaient à 46 milliards d'euros en 2013, tandis que la dette elle-même avait déjà explosé le plafond avec plus de 2000 milliards d'euros et qui ne sera bien évidemment jamais remboursée. Et bien dans ce cadre où il faut sans cesse contracter de nouveaux crédits pour rembourser les intérêts de l'ancien, il n'est pas étonnant que l'appel à la croissance continue, et l'on sait aujourd'hui que cela pose de nombreux problèmes, par exemple au niveau du développement durable, mais je m'égare, alors revenons à nos moutons. La morale de cette petite histoire, c'est que la création monétaire est moins bien sérieuse, entre guillemets, qu'on pourrait le croire, et que les banques ont légalement le droit de faire à peu près tout et n'importe quoi avec la création monétaire, sans que les citoyens ne puissent intervenir ou donner leur avis. Et en ce sens, nous sommes complètement dépossédés de notre monnaie, et nous n'avons que de très faibles axes de manœuvre. Et c'est ici que vous commencez peut-être à voir le rapport avec les sujets dont on traite habituellement autour du logiciel libre. En réalité, suite à ce constat, certaines personnes ont tout simplement proposé de considérer la monnaie comme un commun, au même titre que les logiciels libres et tous les assets de la culture libre dont on a parlé la semaine dernière. Donc pour rappel, un commun, c'est une ressource partagée, qui est gérée et maintenue collectivement par une communauté, et cette communauté établit des règles dans le but de la préserver et de la pérenniser, tout en laissant la possibilité à tout à chacun de l'utiliser. Et donc, il ne faudrait donc que la création monétaire soit l'affaire de tous? Eh bien, c'est ce que propose Stéphane Laborde dans sa théorie relative de la monnaie, dont on aura l'occasion de reparler dans la suite de l'émission. En simplifiant à l'extrême, cette théorie propose une solution mathématique aux inégalités induites par la création monétaire actuelle, en garantissant en particulier, d'une part, qu'aucun individu n'est privilégié par rapport à un autre face à la création monétaire à un instant donné, d'autre part, qu'aucun individu n'est privilégié par rapport à un autre parce qu'il est arrivé plus tôt dans la monnaie, ou plus tard, et enfin, que chaque individu participe directement à la création monétaire, qu'il en soit acteur, en d'autres termes, que chaque individu co-crée la monnaie. Ainsi, la création monétaire devient une affaire de citoyens et non de grandes structures, elle est décentralisée et respecte les principes d'équité, et une telle monnaie est appelée monnaie libre, on y vient en sein, et c'est bien de monnaie libre dont on va discuter dans le reste de l'émission. Voilà, chers amis, désolé d'avoir monopolisé la parole. J'espère que cette petite introduction résumait bien les origines de la monnaie libre.
À ceux qui se demandaient pourquoi on n'avait pas d'invité aujourd'hui, eh bien, on a eu la réponse parce que la présentation de Quentin était parfaite.
Et aussi, merci Mathusson. Et aussi, on n'a pas d'invité parce que je me suis rendu sur le terrain à un apéro monnaie libre à Paris, où on a pu rencontrer du coup différents utilisateurs de cette monnaie libre et que j'ai légèrement interviewé. Donc, on va passer quelques extraits. On va commencer par Jérémy qui nous parle de ce qu'est pour lui la monnaie libre.
Alors pour moi, la monnaie libre, c'est se poser la question de d'abord qu'est-ce qu'une monnaie et qu'est-ce que doit être une monnaie pour être une bonne monnaie, la monnaie qu'on aimerait utiliser tous les jours. Et du coup, quand on regarde le système monétaire actuel, on se rend compte que ça privilégie des personnes. Et donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce système monétaire, c'est d'avoir vraiment une monnaie qui est là pour ne privilégier personne.
Voilà, donc c'est ce que disait tout à l'heure Quentin sur le fait qu'une monnaie ne privilégie personne. On va revenir là-dessus. Pour l'instant, on va écouter Brice qui va nous parler de l'idée de co-création. C'est-à-dire que la monnaie n'est pas créée par une entité centrale, mais par tout le monde. Tu as dit que c'était les individus qui créaient eux-mêmes la monnaie. Du coup, comment ça se fait? Je vais décider de créer tant d'argent pour moi et je serai riche?
Eh ben, ce serait un peu trop facile. Non, en fait, chaque individu crée la même part tous les jours. Donc, par exemple, on est 2000. À, je crois que c'est 13 heures, tous les membres créent 10 junes par jour. Et c'est le système informatique qui détermine la quantité et c'est la même pour tout le monde.
Ce qu'on appelle le dividende universel. On y reviendra aussi plus tard.
Rémi, peut-être qu'on peut préciser à ce stade, puisque Quentin n'a pas insisté là-dessus, mais cette monnaie libre est une monnaie électronique, c'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui une monnaie pour laquelle on a des pièces et des billets, mais c'est un compte, hein, comme un certain nombre d'autres monnaies électroniques dont on a entendu parler dans l'actualité. Mais donc c'est un compte qui est géré informatiquement, ce qui facilite aussi cette création.
Exactement, c'est ce qu'on appelle de la monnaie scripturale. On va ensuite passer à un autre parallèle avec le logiciel libre, comme on en a déjà vu plusieurs, la notion de liberté, notamment les quatre libertés de la monnaie libre.
La première liberté, c'est la liberté de son choix de système monétaire. Donc une monnaie ne peut pas être imposée. La deuxième liberté, c'est la liberté d'avoir accès aux ressources. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher des humains d'avoir accès aux mêmes ressources que soi-même. Tout ça, c'est les libertés comme dans le logiciel libre, c'est symétrique. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit au détriment de certains et au bénéfice d'autres. Donc la liberté de l'accès aux ressources, c'est la deuxième liberté. La troisième liberté, c'est la liberté d'estimer, de produire la valeur. Donc ça pose tout de suite le fait que la valeur est quelque chose de relatif à l'observateur et qui n'est pas quelque chose d'absolu posé par un être humain. Ça c'est super important. Et la quatrième liberté, c'est la liberté d'échanger ou de compter dans la monnaie choisie ou dans l'unité choisie. Et voilà, donc ça c'est les quatre libertés fondamentales sur laquelle la théorie relative de la monnaie est partie. Et la monnaie libre, du coup, c'est une conséquence, c'est un système qui respecte ces quatre libertés pour l'utilisateur économique.
Et suite à ça, on a du coup toujours Adrien qui va nous parler d'un petit parallèle sur cette quatrième liberté, la liberté de compter dans l'unité choisie.
En fait, on peut se poser la question, c'est marrant, quand tu vas dans une boulangerie et que même si on reste dans l'euro, tu vas dans une boulangerie et tu achètes une baguette avec 2 euros par exemple. En fait, on peut très bien...
Elle est chère ta baguette. Hein.
Elle est chère, bien sûr, mais bon, on est dans le 16e quand même, déconne pas. Et le truc, c'est que tu peux très bien dire, quand tu vois la scène de l'échange entre la baguette et les 2 euros, tu peux dire soit la boulangère... cherche à acheter des euros et ne peut pas payer en autre chose qu'en baguette, ou alors c'est le client qui vient et qui veut du pain et qui achète en euros. Mais en fait, les deux, dans un échange comme ça, on peut exprimer le même échange, soit on l'exprime en baguette, soit on l'exprime en euros. Donc si on l'exprime en baguette, bah, en fait, c'est la boulangère qui achète 2 euros en payant en baguette. Voilà. Alors que si on l'exprime en euros, c'est le client qui vient acheter sa baguette en payant en euros. Donc ça, c'est la quatrième liberté économique de compter dans la monnaie choisie, dans l'unité choisie. Et personne ne doit nous obliger à compter dans l'unité d'un choix autre que le nôtre en tant qu'individu.
C'est vraiment un des points importants, je crois, de la monnaie libre. Tu as insisté, Quentin, en introduction sur le caractère démocratique en quelque sorte. Et du coup, c'est cette idée que la monnaie, à la base, ça sert à faire des échanges entre des gens. Donc à la base, c'est quand même un outil social d'échange entre individus. Et effectivement, aujourd'hui, ça a pris des formes et des teneurs assez différentes, avec effectivement des logiques d'obligation ou de création qui nous échappent. Enfin, un certain nombre d'éléments qui font que la monnaie est devenue bien autre chose. Et une des idées de la monnaie libre, sur lesquelles on va essayer de revenir pas mal, mais c'est justement de la ramener à cette fonction d'échange.
Ensuite, on va passer à autre chose, le fait que la monnaie libre, du coup, comme on a pu voir, c'est un concept. La façon dont elle agit, dont elle existe aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la june. On a donc Brice qui va nous expliquer la différence entre la monnaie libre et la june.
Alors, la monnaie libre, c'est la théorie qui dit que la monnaie doit être distribuée de manière équitable à travers toute sa population. Et la june, c'est l'implémentation, enfin, c'est le concret, quoi. C'est-à-dire comment l'utiliser.
Peut-être pour compléter, c'est cette idée que il peut y avoir en fait hein, plusieurs monnaies. Si on veut refaire le parallèle avec le logiciel libre, il y a cette idée qu'à un moment, il existe aujourd'hui une monnaie libre qui est la june, mais en fait, en quelque sorte, qu'on pourrait en créer plusieurs qui ont des propriétés différentes, qui sont gérées un peu différemment, etc., etc. Donc il y a aussi cette idée de diversité qui est également inspirée, je crois, du logiciel libre.
Exactement. Et ça, on en reparlera, je pense, la semaine prochaine ou la semaine d'après, quand on viendra un petit peu plus dans la technique et du coup dans comment se fait cette création-là. Ensuite, c'est bien gentil tout ça de créer notre nouvelle monnaie, mais pour qu'un système monétaire fonctionne, il faut bien qu'on puisse acheter et vendre des choses avec. Donc on a demandé à ces gens-là qu'est-ce qu'eux achetaient et vendaient dans cette monnaie-là.
Alors, pour ce qui est des achats, c'est... du miel, pommes, d'autres choses à manger, il y a eu des nems, j'ai acheté des jeux de société, des jeux vidéo en ligne, j'ai acheté des bandes dessinées, et sinon, pour l'inverse, j'ai reçu des dons pour les différents travaux que j'ai fait en tant que promoteur de la monnaie libre.
On s'excuse d'ailleurs pour les petits bruits qu'on entend au fond, on était à l'extérieur et il y avait un peu de vent. Du coup, on va ensuite passer à Brice qui va nous expliquer un petit peu comment se passe la conversion entre la june et l'euro, parce que la june existe dans un système où il y a aussi l'euro. Comment ça marche ?
Tu peux acheter des junes en euros ou des euros en june. Moi d'ailleurs, si tu veux m'acheter des junes en euros, je suis chaud. J'ai beaucoup de junes pour l'instant. C'est pas interdit. C'est une histoire de est-ce qu'il y a de l'offre et de la demande, quoi.
Mais du coup, ça coûte combien une june en euros ?
Alors, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens aujourd'hui qui achètent des junes en euros. Par contre, on a en gros un genre de taux de change qui se crée en fonction des biens et des services qu'on vend. Donc, à Paris, par exemple, c'est 1 euro vaut à peu près 10 junes. Mais dans d'autres régions où la june est un peu plus utilisée, comme dans le sud, en Occitanie, à Toulouse, par exemple, tu as un magasin qui vend des instruments de musique. Il fait un taux de change à 5 junes pour 1 euro.
Et d'ailleurs, pour parler un peu de ce magasin dont j'ai oublié le nom à Toulouse, c'est un super magasin qui vend des instruments de percussion surtout, qui viennent de partout dans le monde, qui vend du coup en monnaie libre et en monnaie dette aussi. Et il a plein d'instruments où il explique d'où ils viennent. Et c'est un magasin super intéressant. Si vous avez l'occasion de passer à Toulouse, je vous invite à vous renseigner là-dessus.
Est-ce que ce serait Joliba ?
C'est très probable.
Il semblerait que ce soit ça, voilà. Donc Joliba, D-J-O-L-I-B-A.
Merci Quentin. Ensuite, on va continuer toujours avec Brice, qui va nous expliquer le marché secondaire.
Alors, ça dépend où vous vivez. Parce qu'à Paris, par exemple, il n'y a pas énormément d'échanges qui se font, puisque la communauté est assez restreinte. Mais par exemple, à Toulouse, il y a plein de marchés qui se font régulièrement, où les gens vendent de leur production, production artisanale, ils vendent des produits, des services, où ils achètent des choses, où ils vendent des biens sur l'équivalent d'un Le Bon Coin en june, en monnaie libre. Qui s'appelle J'échange. Donc pour l'instant, c'est beaucoup du marché secondaire et de la vente de produits artisanaux.
Et d'ailleurs, Stéphane, je vois sur ton ordinateur que tu es sur Géchange. Est-ce que tu veux dire un mot sur Géchange ?
Géchange, c'est donc une plateforme, un site web qui permet aujourd'hui de déposer des offres. Donc, si vous avez quelque chose à vendre en June, ou de voir l'ensemble des autres offres qui sont existantes. Donc, comme on l'a vu, on trouve quelques produits alimentaires. Il y a vraiment plein d'exemples. Hein. Il y a pas mal de gens qui vendent des objets pour une seconde vie. Il y a quelques exemples un peu plus atypiques, mais il y a par exemple des gens qui vont proposer des locations, de vacances, etc., etc. Donc on peut y trouver aujourd'hui. On trouve beaucoup de livres aussi de produits culturels, de livres de vidéos. Voilà. Donc on trouve aujourd'hui des choses sur Géchange. C'est un sujet sur lequel on va aussi revenir parce que une des difficultés de l'usage de la June aujourd'hui reste néanmoins les échanges au sens de se faire livrer. Par exemple, j'ai failli acheter une fois un téléphone portable et puis finalement, à cause de la livraison, etc., tout est devenu un peu plus compliqué. Et donc, une des idées qu'on a, c'est peut-être d'essayer de créer quelque chose au niveau de l'UTC et ou au niveau de Compiègne pour permettre des échanges en June.
Et d'ailleurs, je rajoute aussi que sur Géchange, on ne trouve pas que des biens à acheter et à vendre, mais aussi des services. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. On a des gens qui vont, par exemple, vendre des formations, qui vont vendre pour faire du ménage, des choses comme ça. Et ça permet, du coup, d'avoir une autre économie à côté, qui se fait pas seulement sur des biens matériaux qu'on aurait achetés ou créés, mais sur vraiment, nous, qu'est-ce qu'on a à offrir, qu'est-ce qu'on a à vendre, qu'est-ce qu'on a à acheter. Et je trouve cette idée vraiment super intéressante.
Et d'ailleurs, beaucoup de gens, quand on parle de monnaie libre avec eux, nous disent, finalement, c'est un peu se ramener au troc. Parce que ça leur semble être vraiment une forme de troc, sauf que, en effet, je trouve que sur certains principes, ça pourrait ressembler au troc, mais le fait d'avoir une monnaie résout énormément de problèmes, à savoir que cette monnaie peut être utilisée pour faire d'autres échanges qui ne sont pas limités à, si on me file des œufs en échange, d'une heure de formation informatique et que je ne veux pas de ces œufs, qu'est-ce que j'en fais ? Le fait d'avoir la monnaie, évidemment, dépasse largement le cadre du troc et donc on ne peut pas le réduire à juste revenir à l'époque du troc, qui d'ailleurs, si tant est qu'elle existait, mais bon, c'est un autre débat.
On va continuer avec deux autres extraits de Brice et Nicole qui nous expliquent ce qu'eux ont acheté dans cette monnaie.
Alors, j'ai acheté pas mal de nourriture, des pommes, des choses que rapportent les gens, de fabrication artisanale. J'ai vendu des livres. Des trucs d'occasion quoi. Et j'ai quelques projets je suis développeur donc j'ai des projets de faire des prestations de services sur du développement web en June. Et aussi je fais de la production vidéo, je vais bientôt faire une web série qui sera rémunérée en June.
Et ensuite l'extrait de Nicole.
Alors, plein de choses. Par exemple, là, je viens d'acheter un peu de miel. J'ai acheté, c'est tout pour le moment, je sais pas. Mais j'ai vendu aussi. J'ai acheté, il y a longtemps de ça maintenant, parce que ça fait quand même plus de 2 ans que je suis dans la monnaie. J'ai acheté du matériel informatique. Ah si, j'ai acheté mes CPL, là, mais non, c'est du matériel informatique. Hein. De tout, en fait. Tout ce que je peux trouver. J'achète, pour l'instant, j'achète peu parce que je trouve peu de choses qui m'intéressent. Mais je commence à vendre. Enfin bon, je paye aussi les repas quand on va aux rencontres. En général, c'est en monnaie libre, en G1. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Ce que j'ai acheté ? Ouais, je sais pas parce qu'en fait, je me préoccupe pas tellement.
Et on remercie du coup Nicole. Qui a souligné un point que je trouve assez intéressant aussi, c'est qu'elle n'achète pas grand-chose parce qu'il n'y a pas grand-chose à vendre. Et c'est pour ça que plus on sera dans cette monnaie-là et plus on aura nous-mêmes des choses à vendre et à acheter, plus on pourra acheter et vendre des choses.
Et aussi, ça c'est sûrement un truc sur lequel on aura l'occasion de revenir, mais vous voyez que les questions qui reviennent assez vite, c'est oui, mais par rapport à l'euro, est-ce qu'on peut convertir de la June en euros ? Est-ce qu'on peut donner une valeur ? Comment estimer la valeur d'un objet en June ? Et c'est aussi ce qui fait la spécificité de la théorie relative de la monnaie, hein, dont on a parlé de Stéphane Laborde, sur lequel se base le concept de monnaie libre et donc la June, c'est que aucun objet, aucun service n'a de valeur absolue en soi. La valeur qu'on donne à un objet ou à un service va être relative à chaque individu. C'est tout à fait normal. Et la June essaie de prendre en compte cet aspect-là. Et ce qui fait aussi que oui, ça va être difficile immédiatement d'estimer la valeur d'un objet, mais c'est aussi en discutant avec les autres et en se basant sur les objets qui ont déjà été vendus et ce genre de choses qu'on va réussir à avoir une sorte de consensus, mais ce sera sans doute toujours plus difficile qu'en euros. D'ailleurs, oui, alors, je dis un petit merci aussi chaleureux à Jérémy, à Brice, Nicole et Adrien qu'on a eu l'occasion de croiser, soit parce qu'ils sont venus animer un jeu autour de la monnaie libre dont on reparlera aussi sans doute la semaine prochaine à Compiègne, soit parce qu'on les a croisés dans des apéros monnaie libre.
Eh bien, on en a fini avec les extraits qu'on avait enregistrés. Et du coup, on va passer à une petite séance d'échange entre nous. Romain, il me semble que tu avais des questions à nous poser.
Ouais, alors du coup, déjà, si j'utilise une monnaie libre comme la June, alors est-ce que je ne serais pas désavantagé par rapport à une personne qui utilise la monnaie depuis plusieurs années? Parce que par exemple, là, Nicole disait « Ouais, je suis dans la monnaie depuis plusieurs années, je fais pas mal d'achats. » Mais est-ce que fondamentalement, il y a une différence entre un nouveau comme moi qui voudrait commencer à me servir de la June et quelqu'un d'autre?
Alors justement, la June est bien faite dans le sens où elle ne privilégie pas quelqu'un qui va être là depuis plus longtemps. Donc on a parlé du mécanisme de création monétaire qui se fait par un dividende universel où tous les jours on va recevoir un dividende universel. Aujourd'hui, ce dividende universel équivaut à peu près à 10 junes. Mais cette valeur-là va changer en fonction du temps, de façon à ce que, à un instant donné, tout le monde ait à peu près reçoit la même valeur et puis l'utiliser de la même façon. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis membre depuis quelques mois. L'argent que j'ai aujourd'hui en junes, si je ne m'en sers pas, si je laisse dormir, bah, mes 500 junes que j'ai aujourd'hui, dans 3 ans, ne vaudront plus rien. Et dans 3 ans, bah, peut-être que le dividende universel sera à 500 junes. Donc peu importe quand on arrive dans la monnaie, on sera toujours au même niveau.
En fait, okay. on reçoit toujours le même pourcentage de la masse monétaire globale. Donc en quelque sorte, on reçoit toujours le même poids de junes au sein de la monnaie. C'est pour ça qu'il y a une équité, une symétrie dans le temps. Quoi.
Ok, mais alors du coup, vous avez parlé de dividende universel. C'est quoi ça, vous avez dit que ça changeait au cours du temps. C'est quoi c'est quelque chose qui me permet d'avoir un peu le minimal vital, comme je sais pas, comme le SMIC qui change aussi. Ça consiste en quoi en fait?
Alors ça pourrait potentiellement permettre d'avoir le minimal vital, mais c'est pas vraiment le cas parce que justement c'est juste une proportion de la masse monétaire totale. Et donc c'est comme ça qu'est créée la monnaie.
Donc ça sert juste à garantir que tout le monde est à égalité.
Plus ou moins. Ça sert à garantir que tout le monde, ne faisant pas d'échange, soit à égalité. Après, forcément, si quelqu'un vend beaucoup de choses, bah, il va avoir plus d'argent que quelqu'un qui achète beaucoup de choses.
Il faut voir que, encore une fois, c'est quelque chose qu'on essaiera de détailler. Hein. C'est pas trivial à expliquer à l'oral. Mais l'idée, c'est que la monnaie libre se préoccupe des questions de monnaie. C'est-à-dire qu'on est égaux devant la monnaie libre par rapport à la question de la création monétaire. Mais en quelque sorte, ça ne se préoccupe pas d'un projet politique ou social sur la façon dont les gens doivent vivre, sur le fait qu'ils doivent avoir les mêmes revenus ou pas, etc. Ça s'attaque uniquement à la question de la monnaie. Et du coup, la mécanique de ce point de vue-là, elle assure que chaque personne crée la même quantité de monnaie, alors que comme on l'a vu en introduction avec Quentin, aujourd'hui, la question de la création monétaire, elle échappe complètement aux citoyens, elle est faite par les mécanismes de dette, etc. Donc là, ça propose un autre système dans lequel chacun est partie prenante de façon égale sur la création monétaire.
On parle de co-création de la monnaie.
Ok, donc ça règle, c'est pas une technologie magique qui règle tous les problèmes de société, quoi.
D'accord. Loin de là.
Non, ça on l'a, mais on en parlera plus tard.
On en parlera plus tard. Et du coup, si j'utilise la June au lieu d'utiliser mes euros, d'utiliser mes petites pièces en euros, qu'est-ce que ça change? Est-ce que mes transactions sont plus, je sais pas moi, sécurisées vu que c'est de l'informatique? Ou alors peut-être qu'elles sont moins bien sécurisées vu que justement ça utilise l'informatique et pas un truc matériel que j'ai dans les mains. Qu'est-ce que ça change?
Bah, c'est une question à laquelle il est assez difficile de répondre. Alors... Si on parle de la June, déjà on va pouvoir répondre plus facilement, mais si on parle de monnaie libre en général, vu que la monnaie libre ça reste un concept, eh bien, c'est vraiment l'implémentation qui va décider de okay. si c'est plus sécurisé.
Donc pas de généralité, quoi.
Voilà, pas de généralité. Dans le cadre de la June, honnêtement, ça se discute des points extrêmement techniques. La June est basée sur la blockchain, une technologie de la blockchain, on en reparlera plus tard, qui est censée du moins assurer une certaine sécurité si l'implémentation est bien faite, dans le sens où elle ne met pas la sécurité, la validation des transactions dans les mains de quelques acteurs comme c'est le cas aujourd'hui.
Et on peut aller voir l'implémentation ?
Oui, bien sûr, évidemment.
C'est du logiciel libre.
C'est du logiciel libre, merci à Romain pour le clin d'œil.
Super, bah dans ce cas, je vais lire le code et je vais voir si c'est bien sécurisé.
Merveilleux, mais bon en courage. Tout cas, pour l'instant, on peut dire que le code a été audité plusieurs fois et il n'est pas ressorti de problème de sécurité majeur.
Et une autre question que je me posais du coup, donc on a un peu opposé du coup la monnaie libre à des monnaies telles qu'elles existent aujourd'hui et avec un fonctionnement qui est vraiment déterminé par les lois, par les États. Est-ce que du coup quelqu'un peut, dans le cadre de monnaie libre comme la June, décider de changer, je sais pas moi, de changer les lois, par exemple de changer arbitrairement la quantité de monnaie en circulation ?
Alors oui, il peut. C'est le concept de la blockchain, c'est-à-dire qu'il va pouvoir le faire de son côté. Et chez lui, bah, il va avoir beaucoup d'argent, mais son argent n'aura aucune valeur ailleurs. Et pour pouvoir agir vraiment sur les règles générales, il faut que tous les acteurs l'acceptent. Donc le jour où je veux décider de « moi j'ai plus d'argent que tout le monde », il faut que j'aille voir tout le monde et que je dise bah, « maintenant vous dites que j'ai plus d'argent que tout le monde aussi ». Donc de fait, ça ne marche pas.
Donc,
Rémi, on va faire une alerte blockchain. Donc là, on a commencé à parler de la blockchain. C'est un sujet un peu compliqué sur lequel on reviendra. C'est quelque chose qu'on a beaucoup dit aujourd'hui, donc on va falloir qu'on revienne beaucoup. Ouais. Mais la réponse, c'est quand même, Quentin, tu veux la donner parce que je t'ai vu hocher la tête. C'est quand même plutôt non, en fait. Enfin, c'était un oui, mais en fait.
Oui, fait en fait, c'est enfin oui. Ce que dit Rémi est techniquement exact, mais effectivement, dans les faits, les règles sont fixées pour tout le monde et personne n'a la capacité de lever la main et de dire « bah voilà, aujourd'hui, je vais injecter 10 millions de junes dans l'économie ». Non, la création monétaire fonctionne uniquement via le dividende universel, pas autrement, et a priori, ça ne changera pas.
Donc ça, c'est les règles de la June, mais supposons qu'avec une autre monnaie, on décidait, on va déterminer que telle personne est une autorité, qui a le droit d'injecter de l'argent, ce serait possible aussi.
Ce serait possible, mais là on serait plus dans le cas justement d'une monnaie libre.
D'une monnaie libre, oui. Voilà,
au sens d'accord. de la. Mais par contre, il pourrait y avoir d'autres mécanismes de création, ou d'autres ouais. mécanismes d'identification notamment. Aujourd'hui, il y a des. C'est quelque chose dont on reparlera. Il y a un mécanisme particulier qui sert à identifier les gens. On pourrait imaginer d'autres mécanismes, d'autres monnaies, avec d'autres règles pour entrer, sortir, etc.
Ok, mais en tout cas, d'un point de vue technique, les écritures, elles ont de la valeur seulement si tout le monde les reconnaît, quoi. Vérifie qu'elles sont bien. Qu'elles respectent bien les règles du jeu, quoi.
C'est ça. Et ça, c'est fait automatiquement par le logiciel.
Oui, c'est encore une fois, les gens n'ont pas approuvé un par un les transactions. C'est fait de manière voilà, automatique. Bien, eh bien, on entend souvent une remarque. Les gens nous disent, voilà, moi j'ai entendu parler d'un autre truc qui a l'air super. Ça s'appelle le Bitcoin. J'étais à la radio et j'ai entendu des gens dire qu'ils payaient en Bitcoin, que c'était une monnaie qui était décentralisée. Ça, je ne l'ai pas entendu à la radio, qui était sécurisée, qu'on pouvait même la miner soi-même. Donc, en quelque sorte, ça ressemble à de la co-création. Est-ce que quelqu'un a un avis là-dessus ? Est-ce que, pourquoi la June, c'est différent ? Pourquoi je ne pourrais pas juste acheter des bitcoins ?
Alors, il y a un certain nombre de choses à dire, mais par rapport à ce que tu as présenté toi-même, Quentin, il y a déjà le principe d'équité devant la monnaie qui est fondamental. C'est que là, les bitcoins ont pris de la valeur et prennent de plus en plus de valeur avec le temps. Donc, les premières personnes à avoir eu des bitcoins sont très riches et aujourd'hui, en bitcoin. Et aujourd'hui, les gens qui souhaitent eh bien, avoir des bitcoins auraient besoin de dépenser beaucoup d'argent pour en avoir. Donc, c'est extrêmement inégalitaire comme système. C'est un premier exemple de différence. Il y en a un autre qui est également un point très important, qui sera un petit peu long à expliquer, mais dans le cadre du Bitcoin, pour des raisons techniques, mais qui sont intrinsèques à la façon dont est conçue cette monnaie et dont est conçu l'algorithme de cette monnaie, eh bien, et lié à la façon également dont on l'utilise ensuite, eh bien, il y a nécessité de mettre en place une très très grande puissance de calcul, ou en tout cas, plus qu'il y a nécessité, il y a un intérêt à mettre en place une très grande puissance de calcul, c'est-à-dire que si j'ai envie de miner du Bitcoin, eh bien, j'ai intérêt aujourd'hui à acheter une très très grande quantité d'ordinateurs pour faire partie de ce club de mineurs. Et ça, ça a une conséquence notamment énergétique, environnementale, puisque du coup, aujourd'hui, l'usage du Bitcoin a une consommation énergétique extrêmement élevée et une consommation tout à fait artificielle. Elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien d'autre qu'à faire fonctionner cette monnaie. Et dans la June, eh bien, c'est une autre mécanique algorithmique qui est utilisée, qui fait qu'en fait, on a besoin uniquement de tout petits ordinateurs qui consomment quasiment rien pour faire fonctionner la monnaie. Donc voilà deux différences. Ça pourrait faire un sujet à part entière, mais on a déjà deux différences très importantes.
Et de manière générale, on peut voir qu'il y a beaucoup de crypto-monnaies qu'on appelle comme le Bitcoin, comme le Monero ou d'autres choses. La grosse différence avec la June, c'est que la June, tous les jours, chacun reçoit son dividende universel, donc tout le monde est co-créateur de la monnaie. Dans les crypto-monnaies plus classiques, c'est juste la personne qui a, comme disait Stéphane, l'ordinateur le plus puissant qui va créer sa monnaie à lui.
Alors, si vous êtes complètement perdu sur la crypto-monnaie, le minage la blockchain et ce genre de choses, je me permets de répéter pour la dixième fois de l'émission, promis, on en reparlera, puisque c'est que la première émission d'une série de quatre émissions, donc ne vous inquiétez pas. Vendredi prochain, on sera là. Bien, peut-être petite dernière chose, si jamais j'ai envie de m'intéresser là tout de suite à la June, peut-être j'ai envie de créer, d'aller voir ce qui se vend, de m'introduire un petit peu à la chose, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je peux aller, quel réflexe ?
Picassoft.net.
Et ben voilà, formidable. Je vous propose de passer à la musique. Est-ce que quelqu'un veut nous lire le traditionnel quiz avant de passer à l'écoute de la musique?
Allez, j'y vais. Alors, si j'utilise une monnaie libre comme la June, A, je ne suis pas désavantagé par rapport à une personne qui utilise la monnaie depuis plusieurs années. 2, le dividende universel me permet de procurer le minimum vital. 3, mes transactions sont plus sécurisées. Ou 4, personne ne peut décider de changer arbitrairement la quantité de monnaie en circulation. Et petite particularité, plusieurs réponses sont possibles aujourd'hui.
Oh là là, mais quelle originalité, c'est fou. Romain, est-ce que tu nous fais un lancement en fanfare de la musique du jour ?
Alors, la musique du jour, c'est One Gets the Money de Guarapita.
We'll be right back.
Et c'était One Gets the Money de Guarapita, disponible sur le site Dogmazic. Alors, pour répondre au quiz, c'était donc les réponses 1 et 4. Je ne suis pas désavantagé par rapport à une personne qui utilise la monnaie depuis plusieurs années, et personne ne peut décider de changer arbitrairement la quantité de monnaie en circulation.
Alors peut-être quelques liens pour conclure l'émission. On va donner simplement deux liens et on donnera des liens plus précis peut-être les semaines prochaines. Donc monnaie-libre.fr pour une bonne introduction à ce qu'est la monnaie libre. Reprendre toutes les informations qu'on a données. C'est un bon point de départ pour peut-être rencontrer les groupes locaux, apprendre à se servir de la June et ce genre de choses. Et j'échange.fr qui est la principale place de marché dont on a discuté. Vous pourrez voir quel genre de services ou de biens se vendent. Bien, bah, je pense qu'il est temps de conclure cette émission. Merci à tous d'avoir écouté. Merci Romain, merci Stéphane et merci Rémi d'avoir été là.
Merci Quentin.
De rien, merci.
Je place, comme chaque semaine, une petite pub pour le roman Trace de Stéphane qu'il a vendu en June sur G-Change. Est-ce que tu veux encore un exemplaire peut-être sur G-Change, Stéphane ?
Il y en a trois.
Eh bien voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour et bonne semaine à tous, à la semaine prochaine.